Ben.
Dans cette édition, on suit l'évolution du projet de loi sur le cannabis qui a été étudié au CESEC ce matin. On vous présente une nouvelle boîte aux lettres pour l'aéroport. Avant de rendre un hommage, ce sera en fin de journal. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On commence ce journal au CESEC qui s'est montré plutôt défavorable sur le texte du CBD.
Oui, il aura fallu pas moins de 6 séances de commission pour en arriver là. Le CESEC a rendu un avis très mitigé sur le projet de loi du gouvernement sur le cannabis sans propriété stupéfiante et les médicaments à base de cannabis élaborés au fénois ou importés. On se souvient que le gouvernement Brotherson a fait abroger la loi adoptée sous l'ancienne mandature et avait promis de présenter son texte avant la fin de l'année dernière, ce qui avait été fait, mais peut-être un peu trop vite selon le CESEC qui écrit que le projet de loi du pays ne permet pas de connaître les réelles intentions ou objectifs du pays en la matière. Les représentants de la société civile s'inquiètent donc de l'usage récréatif auquel Moëtei Brotherson est favorable et ne veulent pas que l'autorisation du CBD soit une façon de banaliser l'usage du PACA. On écoute Marguerite Lay, rapporteur de l'avis du CESEC.
Ce qu'on nous demande, c'est de réfléchir, de donner notre avis sur l'utilisation du CBD, du cannabis, à un taux de THC de 0,3%, comme ça se passe en Europe et tout ça. Nous sommes favorables à ça. Par contre, là où nous sommes défavorables, mais on le voit dans le texte, que le cannabis, c'est pas tout le monde qui plante, que ça ne soit pas récréatif pour tout le monde, alors qu'on le sait bien, c'est déjà le cas. Mais il faut donner un certain cadre. On ne peut pas laisser faire n'importe quoi.
Voilà, le CESEC reproche au gouvernement un manque de données chiffrées, un manque de données sur les risques du CBD pour la santé. Il pointe aussi que les études qualitatives de l'Institut Mallardais commencées en 2023 n'en sont qu'à mi-chemin et que le dispositif proposé est donc prématuré. Et comme toujours, le CESEC fustige l'absence d'arrêté d'application.
On était à l'aéroport ce matin pour parler procédure de détaxe.
Oui, puisqu'un nouveau processus a été lancé à FAA. Les visiteurs n'auront plus qu'à passer leur bordereau dans un horodateur côté terminal international et les glisser dans une boîte aux lettres. Il faut dire qu'ils sont 28 000 tous non-résidents à faire une telle demande tous les ans. Et jusqu'à présent, ils devaient se rendre au bureau des douanes, ce qui se trouve dans le grand hall de l'aérogare de Tahiti-FAA. Compliqué en cas de retard ou de file d'attente. Les détails de cette nouvelle procédure avec le ministre des Finances, Tevaiti Pomare, qui a mis en place le système avec l'aide des douanes.
L'idée, c'est de quelque chose qui soit pratique, simple et sécurisé. Donc avant, on avait un visa manuel en zone publique. Aujourd'hui, l'usager peut venir directement en zone d'embarquement pour déclarer l'ensemble des articles qu'il aurait achetés ici ont des taxes et qui portent sur lui. Il n'a pas besoin de prévoir de temps en plus, il arrive, il horodate ici et puis il pose l'enveloppe dans cette boîte aux lettres.
Et du côté des douanes, on se félicite du gain de temps. Les bordereaux de détaxe qui sont remplis directement par les commerçants et remis à leurs clients leur sont renvoyés une fois postés et visés à l'aéroport afin qu'ils puissent justifier de ne pas avoir fait payer la TVA. Cela dégage aussi un emploi pour un douanier qui était sur ses tâches administratives et qui pourra par exemple exercer sur la partie contrôle puisque les douanes peuvent toujours demander aux usagers passant par l'horodateur de justifier leur demande de détaxe en montrant les objets achetés et les reçus. Le directeur régional des douanes, Serge Puccetti.
Et ça correspond à ce qu'on vend principalement en Polynésie, hein, c'est-à-dire beaucoup de bijoux avec des perles montées. Donc 95% de la détaxe, ce sont des objets qu'on va mettre en bagage de soute. C'est pour ça qu'on peut le faire.
Et concernant les objets plus volumineux qui auraient été achetés en détaxe mais ne rentreraient pas dans les bagages cabines, les douanes conservent bien sûr une présence 24 heures sur 24 dans le hall de l'aéroport.
Cette info média désormais, TNTV n'aura pas un, mais bien deux directeurs.
Oui, Moëtei Brotherson l'a annoncé hier. Karl Tefaato est nommé directeur général de la chaîne, mais il aura à ses côtés Yves Aupert en tant que directeur général délégué. Éphémère PDG d'Air Moana, Karl Tefaato avait surtout piloté pendant 8 ans la DGEN et il siège depuis quelques mois au CESEC en tant que spécialiste de la sécurité économique. Un profil qui semblait coller avec la volonté de changement et de développement de la présence numérique de la chaîne mise en avant depuis plusieurs mois par le président. De son côté, Yves Aupert était le candidat favori des salariés. L'ancien responsable de la communication de Gaston Floss et d'Edouard Fritsch avait déjà dirigé la chaîne entre 2007 et 2013. Il avait terminé largement en tête du vote consultatif organisé au sein du personnel vendredi. Il est donc nommé en soutien de Karl Tefaato. On écoute Moëtei Brotherson après cette double nomination surprise.
C'est posé la question de comment est-ce qu'on allait faire à la fois rassurer la partie journalistique, la partie classique de DNTV, qui est un métier qui ne s'invente pas, et puis opérer cette transition, cette mutation de l'outil. Donc on a fait ce choix d'associer à la fois l'expérience journalistique d'Yves Aupert avec l'expérience des nouvelles technologies, l'expérience du numérique et puis cette capacité d'innovation que nous avons décelée chez Karl Tefaato.
Un double choix qui peut interroger à l'heure où des économies sont demandées à TNTV. Deux salaires de directeur, cela représente 28 millions de dépenses par an, selon le président Moïtei Brozerson, qui justifie ces chiffres comme un investissement.
À un moment donné, si vous voulez changer les choses, si vous voulez donner à TNTV la capacité de faire sa mutation, vous ne pourrez pas le faire sans mettre un centime. C'est pas possible. On peut pas, à enveloppe constante, demander à TNTV de faire sa mue et de devenir Goldorak. On les augmente à un instant T pour, sur le moyen et le long terme, avoir des résultats. Je veux dire, à un moment donné, il faudra rénover ces studios, il faudra les transformer en autre chose que ce qui existe aujourd'hui. Il faudra l'investissement.
Voilà, reste à découvrir désormais le plan de cette fameuse mutation. Le président dit comprendre les inquiétudes du personnel de la chaîne, mais les renvoie à présent vers les nouveaux dirigeants qui devront exposer leur plan dans les jours qui viennent.
Un mot de météo, une potentielle dépression tropicale menace la société et les Australes.
C'est en tout cas le phénomène que craint de voir se développer Météo France d'ici la fin du prochain week-end. Ces prévisions sont dues, selon le directeur adjoint de la station Frédéric Troc, à l'observation d'une vaste zone du bassin du Pacifique Sud entre Tonga et Niue. Elle se situe pour l'heure à 1500 km du Fenua et dans laquelle pourraient donc se développer différents phénomènes météorologiques. Dans les conditions actuelles, elle se déplacerait vers l'ouest de la Polynésie et pourrait toucher d'ici dimanche soir les îles de la Société et les Australes.
Aujourd'hui, il y a énormément d'incertitudes par rapport à son devenir. Elle peut donner naissance à des dépressions plus ou moins fortes, avec des trajectoires très différentes encore aujourd'hui. Tout ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une zone qui se déplace globalement vers l'est, donc qui se rapproche de chez nous. À ce stade, il n'y a pas lieu de paniquer ou quoi que ce soit. On est simplement en train de dire il y a des choses qui se passent à l'ouest de chez nous. Soyons attentifs.
Voilà, le directeur adjoint de Météo France, Frédéric Troc, il est au micro de Vaitia Réperère. Pour rappel, la station avait prévenu dès le 31 octobre, dans son traditionnel point sur le risque cyclonique, que le retour du phénomène El Niño augmentait le risque d'événements extrêmes en ce début de saison.
Et pour terminer, on vous parle d'un anniversaire.
Ah oui, celui des 80 ans de la naissance de Henry Hiro. Pour célébrer l'homme de culture disparu il y a 34 ans, Te Whare Tahoeti Nui et le gouvernement organisent des célébrations tout au long de l'année. Cela vise à honorer son œuvre, sa pensée et la philosophie qu'il a distillée, une source d'inspiration constante pour les générations actuelles. Voilà ce que souligne la Maison de la Culture. Alors sa veuve, Do Carlson, et sa fille, Itihiti Hiro, étaient nos invités ce matin pour nous parler de cette année de célébration. Quatre opérations ont ainsi été planifié avec la conception d'une exposition sur sa vie, la réalisation d'un clip vidéo pour illustrer le dernier Himene écrit et composé par l'artiste, mais aussi la réalisation d'un documentaire et la mise en scène d'une pièce de théâtre. Un bel hommage pour l'artiste qui fait aujourd'hui consensus dans la société polynésienne, mais ça n'a pas toujours été le cas bien sûr, comme le rappelle sa fille.
Des fois, j'ai l'impression que toute cette partie, voilà, toute la haine qu'il y avait autour de lui, bien finalement, on dirait que ça n'a jamais existé pour certains. On dirait que il a toujours été, le sauveur de la culture, ce qui est fou. C'est aussi un de nos des messages qu'on doit aussi faire passer cette année, c'est que c'était pas tous les jours facile. C'était un réel combat, mais bon, que les gens maintenant, n'arrivent pas à percevoir.
Un combat que les gens ne perçoivent pas forcément aujourd'hui, car les temps ont bien sûr changé, comme le souligne sa veuve Do Carlson, qui estime toutefois que le discours d'Henry Hiro, lui, n'aurait pas bougé avec le temps.
Je pense qu'il dirait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut s'affirmer en tant que Polynésien, comme jeune d'aujourd'hui, en gardant ses valeurs principales, c'est-à-dire sa langue, les valeurs fondamentales de partage, de solidarité, de compassion, d'amour. Bon, c'est très difficile, enfin, je veux dire, ça reste peut-être du virtuel, parce que dans la vie courante d'aujourd'hui, ça n'est pas vraiment... Enfin, je pense pas que ce soit très facile de le faire. Mais bon, ça aurait été sa philosophie, je pense.
Des valeurs et une philosophie que les Polynésiens sont donc invités à découvrir ou à redécouvrir, bien sûr, tout au long de l'année. Outre l'exposition, le club vidéo, le documentaire ou la pièce de théâtre, des hommages sont aussi prévus lors des événements majeurs du calendrier culturel. Toutes les informations à retrouver auprès de la Maison de la Culture. L'interview de Do Carlson et de Itihiti Hiro est bien sûr à retrouver sur la page Facebook de Radio 1. Tout comme, j'en profite pour le signaler, celle de Tematei Le Gaïc, le député qui était notre invité il y a tout juste quelques minutes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain point avec l'actualité, ce sera le flash de la rédaction à 16h.